Vous écoutez On lit pour vous.
Dans les appartements parisiens, le dilemme de la clim échauffe les esprits, un texte de Juliette Collen de l'Agence France-Presse, paru le 7 août 2025 dans Le Devoir. Certains résistent, d'autres craquent. Paris n'a pas la culture de la climatisation individuelle, mais avec l'intensification des vagues de chaleur, la question devient prégnante et pose un dilemme à ceux qui en connaissent l'impact écologique. Il a fait jusqu'à 41 degrés chez moi au dernier pic de chaleur. Je ne pensais pas que c'était possible, soupire Marion Lafuste, qui vit sous les célèbres toits en zinc de la capitale française. Les pains de glace devant les ventilateurs, les volets baissés, c'est anecdotique, regrette cette mère de famille de 40 ans. Si elle n'avait pas la chance de pouvoir se réfugier à la campagne, elle aurait sans doute acheté une climatisation et malgré les problèmes idéologiques que cela lui pose. On marche sur la tête puisque ça aggrave le réchauffement climatique. Mais maintenant, je ne juge plus ceux qui en ont. Au dernier étage de son immeuble, dans le 18e arrondissement, Martine Bontemps suffoque aussi, mais ne cède pas. Elle préfère la solution du ventilateur au plafond qu'elle a demandé à son propriétaire d'installer. Point de bascule. Ruben Arnold s'est équipé d'un climatisateur mobile, certes pas optimal, mais qui lui permet, avec ses jeunes enfants, de tenir. Au prix d'un tiraillement, puisque se dirigeant d'une jeune pousse de diagnostic de performance énergétique, DPE, en connaît tous les effets néfastes. On a beau savoir que c'est un plaisir égoïste, il y a un point de bascule où tous les arguments disparaissent, confie ce père de famille de 47 ans. Avoir trop chaud est tout aussi invivable qu'avoir trop froid. La température de confort est une revendication normale, appuie Anne Rua, géographe à l'université Gustave Eiffel. Particulièrement dense et minérale, Paris pourrait vivre des pics de chaleur à 50 degrés Celsius d'ici à 2050 et le nombre de nuits tropicales devrait s'y multiplier, selon Météo France. Ces nuits, où les températures ne descendent pas sous les 20 degrés Celsius, empêchent le corps de récupérer et peuvent produire une surmortalité, comme durant la canicule de 2003, où environ un tiers des décès de personnes âgées ont eu lieu à domicile. C'est un des arguments avancés par Sophie Juligny, 53 ans, dont l'appartement climatisé offre à sa mère de 86 ans quelques heures au frais. Selon une étude récente de l'Atelier parisien d'urbanisme, APUR, la climatisation n'a pas encore saturé le paysage de la rue parisienne, comme dans d'autres grandes villes, mais elle ne cesse de se développer. Contrairement aux bureaux, les appartements parisiens sont encore peu climatisés, mais il est vraisemblable que l'acquisition de ce système suive une croissance exponentielle, relève ces travaux inédits qui ont cartographié via des caméras thermiques les rejets de chaleur émis par les appareils. Maladaptation. La tendance devrait s'accentuer avec le développement des locations touristiques dans les quartiers pour répondre aux attentes d'une clientèle internationale, anticipe l'APUR. Le phénomène reste cependant difficile à quantifier, car il s'agit essentiellement de climatiseurs d'appoint installés de manière informelle. Mais sur l'ensemble du parc de logements, on observe effectivement une tendance assez lourde à un développement de la climatisation, ce qui est très problématique, confirme Karine Bidard, directrice de l'Agence parisienne du climat, APC. Cette agence, créée par la Ville de Paris pour aider à la transition écologique, fait tout pour éviter la généralisation de cette maladaptation catastrophique au réchauffement climatique, explique-t-elle. Plusieurs études prédisent qu'une augmentation massive de la climatisation individuelle réchaufferait l'air de 2 degrés, pointe Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge du plan climat. On comprend que ce soit un dernier recours, surtout pour des personnes fragiles. Le problème, c'est de considérer la climatisation comme le réflexe à avoir, alors qu'il existe des solutions moins coûteuses et plus efficaces, plaide Frédéric Delhomo, directeur Habitat Énergie de l'APC. À commencer par la rénovation énergétique, y compris des toits en zinc, véritable poêle à frire. Sauf qu'un tiers des projets de rénovation sont bloqués ou freinés par les architectes des bâtiments de France, ABF, qui font passer le patrimoine avant la santé des personnes, déplore Dan Lert. Pour Anne Rua, Paris peut encore se passer de climatisation individuelle, mais pas pour longtemps, tant sa minéralité est dure à compenser. Plutôt que de dire qu'il ne faut pas y avoir recours et de culpabiliser les gens, il vaut mieux se demander comment on le fera en réfléchissant aux systèmes les plus vertueux possibles, observe la chercheuse. C'était dans les appartements parisiens. Le dilemme de la clim échauffe les esprits, un texte de Juliette Collen de l'agence France Presse, paru le 7 août 2025 dans Le Devoir.
Ultimatum et illusion perdue, un texte de Zach Batta, paru le 31 juillet 2025 dans La Presse. Dans un mouvement qui rappelle le désenchantement progressif au cœur des illusions perdues de Balzac, Donald Trump s'emploie à défendre un ordre international que l'histoire est en train de dépasser. La récente intervention de Donald Trump dans la diplomatie mondiale, menaçant d'imposer des droits de douane de 100% à la Russie si un accord de paix n'est pas conclu d'ici quelques jours et promettant des sanctions contre tout pays commerçant avec Moscou, se veut un acte de force. Mais il faut plutôt y voir le reflet d'une époque révolue. Associé à son plan consistant à fournir des armes américaines à l'Ukraine par l'intermédiaire de l'OTAN, où les alliés paient pendant que les industriels de l'armement américain empochent les bénéfices, cette politique illustre non pas le renouveau du leadership américain, mais sa fragmentation. Les menaces de Trump risquent de renforcer le monde multipolaire qu'il a passé des années à vouloir empêcher. En tant qu'historien du Moyen-Orient, je reconnais là un schéma familier. Le XXe siècle regorge d'exemples d'empires ayant surestimé la portée de la coercition économique. De la politique de blocus de la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale aux embargos imposés par les États-Unis à l'Égypte de Nasser, ces outils ont souvent entraîné des effets pervers. Réorientation économique, raidissement politique et formation d'alliances nouvelles au-delà de la sphère d'influence du pouvoir sanctionnant. La stratégie tarifaire de Trump ne fait pas exception. Un ordre post-américain. L'idée d'utiliser des droits de douane pour contraindre les puissances étrangères à se soumettre n'a rien de nouveau. Au début des années 1930, le droit de douane Smoot-Hawley visait à protéger l'industrie américaine pendant la Grande Dépression. Il a, en réalité, provoqué des représailles commerciales mondiales et aggravé la crise. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont imposé des restrictions commerciales massives à l'Union soviétique et à ses alliés. Mais même à l'apogée de leur puissance, ces sanctions exigeaient une diplomatie multilatérale complexe et donnaient rarement des résultats rapides. Aujourd'hui, l'économie mondiale est bien plus décentralisée. Demander à des États souverains comme l'Inde, la Turquie ou le Brésil de rompre leurs relations commerciales avec la Russie sous peine de sanctions n'est pas seulement irréaliste. Cela accélère leur basculement vers un ordre post-américain. En réalité, cette posture pourrait renforcer la Russie. Après 2022, les sanctions ont poussé Moscou à se tourner vers d'autres circuits commerciaux, à renforcer ses liens énergétiques avec la Chine et à utiliser d'autres monnaies comme solution de rechange au dollar. L'idée que des droits de douane de 100% ou des sanctions secondaires isoleront aujourd'hui la Russie, alors qu'une grande partie du Sud global refuse de prendre parti dans la guerre en Ukraine, témoigne d'une mauvaise compréhension de la répartition du pouvoir en 2025. Elle ignore aussi le rejet croissant, dans de nombreuses régions du monde, des conditionnalités imposées par les États-Unis. Le plan d'armement de Trump est tout aussi révélateur. Plutôt que de fournir directement des armes à l'Ukraine, son administration propose que les alliés de l'OTAN achètent des systèmes américains, comme les batteries Patriot, et les transfèrent à Kiev, permettant aux États-Unis de reconstituer leur stock par de nouveaux contrats. La logique est d'ordre politique. Éviter une aide directe, faire bénéficier l'industrie nationale et faire payer le Canada et l'Europe. Mais, historiquement, cela relève d'un transfert de responsabilité par procuration. Les États-Unis ont déjà utilisé ce genre de modèle avec la doctrine Nixon et plus tard en soutenant des alliés régionaux comme l'Arabie saoudite, Israël ou le Pakistan, souvent avec une instabilité durable à la clé. Déléguer ainsi ne mène que rarement à des résultats stables. Fondamentalement, toute cette posture, droit de douane, aide militaire indirecte, ultimatum, traduit une volonté de préserver une domination unipolaire dans un monde qui a déjà changé. Une politique réellement stratégique reconnaîtrait que nous vivons dans un système multipolaire où le pouvoir est diffus, transactionnel et où le Sud global joue un rôle de plus en plus important dans la définition des normes internationales. Des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud ne sont pas de simples spectateurs des tensions russo-américaines, ce sont des acteurs autonomes dans un monde de plus en plus pluriel. La guerre en Ukraine est une tragédie. Mais y répondre par des délais unilatéraux et des moyens coercitifs révèle une angoisse plus profonde, celle d'un Washington qui perd la capacité de fixer les règles du jeu. Les menaces de Trump peuvent donner l'illusion d'une action, mais elles sont réactives, non visionnaires. Elles évoquent les derniers soubresauts d'un ancien ordre, pas les fondations d'un nouveau. L'histoire nous enseigne que lorsque des empires tentent d'imposer des règles qui ne correspondent plus à l'équilibre réel des forces, ils précipitent souvent leur propre déclin. Une voie plus sage consisterait à accepter la multipolarité et non à la combattre, en favorisant la diplomatie régionale, en partageant les responsabilités et en abandonnant l'illusion que les outils punitifs peuvent à eux seuls façonner le monde. Comme dans le roman de Balzac, c'est parfois l'illusion de puissance elle-même qui précipite la chute. C'était « Ultimatum et illusion perdue », un texte de Zach Batta, paru le 31 juillet 2025 dans La Presse.
L'auteur Ben Ladouceur revisite Expo 67 et le raid de Trox. Une entrevue réalisée par Richard Burnett, parue le 21 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Le poète d'Ottawa Ben Ladouceur aime tellement Montréal qu'il a décidé d'y situer l'action de son tout premier roman, I Remember Lights, un récit initiatique queer acclamé par la critique. Ce roman historique nous transporte dans le Montréal d'Expo 67 et suit les aventures d'un jeune homme gay de 19 ans, fictif mais très crédible, alors qu'il découvre sa sexualité et tombe amoureux pendant le Summer of Love. Le livre se termine 10 ans plus tard, avec le tristement célèbre raid policier de 1977 au bar Le Mystique, Trucks, où 146 hommes gays sont arrêtés par des policiers armés de mitraillettes. C'est un des plus gros coups de filet contre la communauté LGBTQ+ dans l'histoire canadienne. Le roman de Ben Ladouceur est à la fois un hommage vibrant à la vie gay et un acte de mémoire queer, empreint de résilience et de fierté. Lauréat du prix Dane Ogilvie du Writers' Trust of Canada, remis aux auteurs, autrices LGBTQ émergents et émergentes, et finaliste au Lambda Literary Awards, Ladouceur sera écrivain en résidence à l'Université d'Ottawa en 2026. Il nous a accordé une entrevue franche et généreuse qu'on a légèrement écourtée pour des raisons de clarté. Combien de temps t'a pris l'écriture du roman, de l'idée jusqu'à la publication? J'ai eu la chance d'avoir une résidence d'écriture de 3 mois à la maison Al Purdy en 2016. Je me suis dit, bon, j'y vais en septembre, je ressors en novembre avec un roman. Spoiler, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça m'a pris 8 ans pour écrire I Remember Lights. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un roman qui se passe 10 ou 20 ans avant ta naissance en 1987? J'ai toujours été fasciné par Expo 67. À l'université, j'ai vu un documentaire de l'ONF là-dessus, puis je suis allé sur l'île Sainte-Hélène pour voir ce qu'il restait des pavillons. Tout le monde est allé à Expo 67. Toutes les vedettes, tous les visages connus de l'époque y ont mis les pieds. C'est un événement que les gens évoquent toujours avec chaleur. Il y avait quelque chose de joyeux, même du côté queer. Il y a des histoires de drag queens qui y sont allées en drague. C'était un endroit où on se sentait un peu plus libre dans sa peau. Puis, il faut le dire, c'était très camp. J'ai aussi regardé Trucks, un court docu de 20 minutes réalisé par Harry Sutherland en 1978. Quand on raconte une histoire queer, c'est important de mettre les choses en contexte. Ensuite, j'ai interviewé Paul Keenan, qui était présent au Trucks le soir du raid, puis qui apparaît dans le docu. Il m'a raconté, minute par minute, tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Paul m'a aussi mis en contact avec Jeff Richstone, un avocat qui représentait plusieurs gars arrêtés ce soir-là, puis qui ne voulait pas juste se laisser faire. Ils ont voulu se battre. C'est pour ça que mon livre se termine le matin après le raid. C'était la fin naturelle de l'histoire. Montréal n'est pas juste le décor de ton roman, c'est presque un personnage en soi. Ouais, c'est vrai. Et au lancement de mon livre à Montréal, en juin, il y avait une super ambiance. Ça m'a touché parce que je ne suis pas de Montréal. Mais j'y venais souvent quand j'avais 19, 20, 21 ans. Je me sentais plus libre ici. Je portais une camisole puis je m'en foutais. Je savais aussi que mon personnage principal aurait 19 ans et qu'il vivrait une libération, comme celle que Montréal offre encore aujourd'hui. L'authenticité est super importante dans un roman historique. Tu fais même référence à un mur de briques pendant le raid de Trucks, quand les policiers demandent aux gars de lever les mains. J'ai essayé d'être le plus rigoureux possible avec ces détails-là. Plus de 50 millions de personnes ont visité Expo 67. Tout le monde a un souvenir précis, en particulier les Montréalais. Est-ce que tu as ressenti de la pression pour bien rendre l'ambiance d'Expo? Clairement, c'était intimidant, je te mentirais pas. J'en savais un peu avant de commencer, mais pas tant que ça. J'avais une base sur Expo, une idée générale de l'époque et de l'expérience queer, mais la recherche et l'écriture se sont faites en même temps. Quand tu écris, tu peux te permettre d'explorer. Quand tu publies, là, tu as une responsabilité. Si tu veux tout faire parfaitement dès le départ, tu figes. Faut te donner le droit de chercher en cours de route. Ce chapitre crucial, à la fin où les gars sont arrêtés, mis en cellule puis testés pour les ITSS, comment t'as fait pour écrire ça de façon aussi précise? Grâce aux conversations avec Paul et Jeff, ils m'ont donné des détails que je n'aurais jamais pu inventer. C'était précieux. Les gens pensent souvent, à tort, que les personnes gays étaient moins heureuses et moins héroïques avant Stonewall, et plus heureuses et plus libres après. Ton roman casse cette idée-là. Je suis content que tu aies remarqué ça. Le roman a deux lignes temporelles. Une en 1967, où tout semble plus ouvert, les gens passent dans le placard, puis une autre en 1977, où la sécurité est fragile. On voit que tout peut basculer. Ce n'est pas vrai que ça va toujours mieux avec le temps. Pour les personnes queer, le progrès n'est jamais linéaire. Montréal a deux Stonewall, Crocs en 1977 et Sex Garage en 1990. Je couvre Sex Garage depuis des années et j'ai parfois l'impression que son mythe a éclipsé celui de Trucks. Ton roman remet un peu les pendules à l'heure. Ouais, c'est super important de se souvenir de notre histoire. The Beautiful Room is Empty d'Edmund White, par exemple, se termine avec Stonewall. C'est puissant de lire des récits queer qui nous montrent l'humain derrière les événements historiques. C'était comment grandir gay à Ottawa? J'ai fait mon coming out à 13 ans. J'allais à l'école Canterbury, une école d'art. Ce n'était pas parfait, mais pas pire comme contexte pour sortir du placard. D'autres élèves de mon année l'ont fait aussi. Je l'ai dit à mes parents un an plus tard, mais c'était quand même un combat. Et aujourd'hui, es-tu en couple? Oui. Mon chum s'appelle Scott. C'est un chanteur. Au lancement d'I Remember Lights à Ottawa, il a interprété des chansons des Mamas and the Papas et des Righteous Brothers, des chansons qui sont dans le livre. Te considères-tu comme un écrivain gay ou un écrivain qui se trouve à être gay? J'ai toujours été out depuis que j'écris. C'est rare que j'écrive quelque chose qui n'est pas influencé par mon vécu queer. Que ce soit de la poésie, de la fiction, même une critique littéraire. Je viens aussi de finir un autre roman historique très queer. Je ne m'imagine pas publier un livre qui n'aborde pas ces thèmes-là. Donc ouais, je suis un écrivain gay. Et j'en suis fier. C'était l'auteur Ben Ladouceur revisite Expo 67 et le raid de Trucks. Une entrevue réalisée par Richard Burnett, parue le 21 juillet 2025 dans le magazine Fugue.
Démantèlement complet d'un réseau d'exportation d'auto-voliers. Un texte de Axel Dansereau-Massias, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir. Cinq hommes soupçonnés d'être à la tête d'un réseau d'exportation de véhicules volés ont été arrêtés à Montréal, Laval et Rosemère dans le cadre d'une vaste opération policière qui a mobilisé une centaine d'agents. L'opération visait à démanteler un groupe de criminels qui sont soupçonnés d'orchestrer l'exportation de véhicules volés destinés à l'étranger, a expliqué en entrevue le commandant Pierre-Marc Houle, chef des enquêtes du projet Sud du service de police de la ville de Montréal, SPVM. Le SPVM a collaboré avec la Gendarmerie royale du Canada, GRC, et l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, pour procéder aux arrestations. M. Houle estime que l'opération a mené au démantèlement complet du groupe qui volait principalement des véhicules en Ontario et au Québec. L'enquête, débutée en février 2024, a permis l'arrestation de cinq hommes âgés de 40 à 69 ans pour trafic de biens criminellement obtenus. Ils rencontreront les enquêteurs, puis seront libérés une fois les accusations déposées et leur date de comparution déterminée. 9 résidences et un commerce lavallois sont visés par des perquisitions. L'enquête de longue haleine a permis de cibler 278 véhicules volés et d'en récupérer 199 pour une valeur de 22,8 millions de dollars, a chiffré le commandant. Certains véhicules ont été retrouvés à l'international, le groupe criminel envoyant la marchandise outre-mer. Leur rôle, c'est vraiment d'exporter les véhicules, du transport jusqu'aux compagnies maritimes, puis de les envoyer dans différents pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, précise-t-il. Une opération d'envergure. C'est grâce à plusieurs partenaires dont l'Ontario Provincial Police, Interpol, York Regional Police, le service de police de Laval et l'organisme de prévention de fraude d'assurance Équité Association que l'opération a pu être menée à une aussi grande échelle. Cette coopération entre les différentes organisations de sécurité montre l'ampleur de l'opération, selon Dominique Monchamp, directeur des enquêtes à Équité Association pour le Québec et les Maritimes. On s'attaque à des têtes dirigeantes, à des individus qui travaillent en réseau de façon organisée, ajoute-t-il. Cette opération survient alors que ce type de crime s'organise davantage au Québec, estime le directeur, et que les cas de maquillage se multiplient. La technique utilisée par les criminels consiste à produire un faux numéro de série pour empêcher la police d'avoir accès au véhicule dans sa base de données. Il faut ajouter à cela le découpage de pièces de véhicules, de plus en plus fréquent, qui montre un certain degré de structuration de la part des voleurs et exportateurs d'auto, a-t-il souligné. Montréal était visé par l'opération, car les automobiles volés envoyés outre-mer convergeaient vers le port de la métropole, un terrain fertile pour le crime organisé. Plus de 135 000 conteneurs y ont transité dans le dernier mois. Depuis le début de l'année, 2015 véhicules ont été volés au Québec, selon les données d'Équité Association. En 2024, ce nombre s'élevait à 8 800 véhicules, selon le rapport du SPVM. Les deux chiffres représentent des baisses en comparaison avec les années précédentes. Rappelons que la police montréalaise avait fait une saisie de plus de 1 300 véhicules en 2024, montrant l'effort déployé au Québec pour réduire ce crime. C'était « Démantèlement complet d'un réseau d'exportation d'auto volés », un texte de Axel Danseau-Massias, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir.